Le quatrième roi mage de Bethléem. Il était une fois un roi qui ne ressemblait pas à un roi. On aurait dit un marchand de tapis. C'était un homme petit, chauve, moustachu, aussi rond qu'une barrique. Ce soir-là, il ressemblait encore moins à un roi. Il suait, soufflait, haletait. Ses vêtements de prince n'étaient plus que guenilles. Depuis des jours, Cyrus marchait, tirant son cheval par la bride, épuisé. Lorsqu'il parvint au sommet de la colline de Bethléem, il se mit à pleurer. Il avait beau être roi de Perse, il arrivait trop tard. Oui, trop tard. Son expédition était un échec. Le roi de Perse s'assit sur un rocher qui surplombait la vallée. Le ciel était pur, des milliers d'étoiles formaient comme une immense guirlande. Elles dessinaient une flèche de lumière. Dans les collines sombres du village endormi de Bethléem, elles semblaient désigner une grotte à peine visible, creusée à flanc de rocher. Cyrus sécha ses larmes. Il était arrivé au but, enfin. Mais il était trop tard. Il arrivait toujours trop tard. Depuis qu'il avait succédé à son père, le grand Cyrus, sa femme, ses enfants, ses ministres, son peuple, tout le monde lui reprochait ses retards à répétition. Mais était-ce sa faute à lui s'il était lent et rêveur? À vrai dire, personne dans son entourage n'avait compris qu'il décide soudain, quelques semaines plus tôt, de rejoindre la caravane de ses cousins d'Orient, les rois mages. Ces princes étaient des savants, des originaux. Ils se passionnaient pour l'astronomie et scrutaient le ciel. Or, après des années de travail, ils en étaient arrivés à cette conclusion. Dans un minuscule coin du monde, la Palestine, un nouveau prince venait de voir le jour. Pas un prince de pacotille comme Hérode, non. Un vrai, un bon, un grand roi, dont le règne changerait la face de la terre. Ils avaient vu son étoile se lever. Cela valait bien le coup d'aller voir. L'astre leur montrerait le chemin. Vite, les trois mages avaient monté une expédition vers le pays des Juifs. Ils voulaient trouver ce mystérieux prince, ce roi des rois, pour lui rendre hommage. Le roi de Perse, lui, s'ennuyait ferme dans sa cour et tournait en rond dans son palais carré. Mais le petit Cyrus était curieux. Il admirait la sagesse de ses cousins et désirait depuis toujours leur ressembler. Avoir appris la naissance d'un nouveau prince dont personne ne savait rien l'intriguait. Il ne voulait pas manquer quelque chose d'important. Avant de sauter sur son cheval, il avait tiré de sa cassette secrète trois perles fines d'une immense valeur. Cela ferait un très beau cadeau pour le roi nouveau-né. Seulement voilà, le roi de Perse avait raté le rendez-vous avec les trois mages. Il l'avait entendu pourtant, mais ils étaient finalement partis sans lui. Le roi de Perse avait bien tenté de rattraper leur caravane, mais que peut faire un cheval aussi têtu qu'un âne face à des dromadaires dociles aux immenses foulées? Et puis, bien des contretemps étaient survenus en chemin. Des incidents, des accidents, bref, beaucoup de pépins. Le petit roi n'avait pu combler son retard. Il était seul désormais, mais il avait suivi l'étoile. Les rois mages avaient dû arriver à Bethléem bien avant lui. Ils étaient déjà repartis sans doute. Le roi de Perse eut la tentation de faire demi-tour, puis il se ravisa. Après tant de kilomètres parcourus, tant de peines, n'était-il pas dommage de ne pas aller saluer ce nouveau seigneur, même dans cet état? Puis il se ravisa. Après tant de kilomètres parcourus, tant de peines, n'était-il pas dommage de ne pas aller saluer ce nouveau seigneur, même dans cet état pitoyable? Son cheval s'était écroulé de fatigue. Le petit roi décida d'y aller à pied. Toujours en suivant l'étoile, il descendit dans la vallée, puis gravit la pente opposée. dans la roche s'ouvrait une grotte. Celle-ci n'était qu'une étable pour les bêtes. Ne s'était-il pas égaré? Était-ce là vraiment une demeure de prince? Une étable au lieu d'un palais? C'était insensé. Cyrus poussa lentement la porte disjointe. Elle grinça. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Entourée d'un âne et d'un bœuf, une femme très belle allaitait un nouveau-né enveloppé de linge. Un homme barbu et costaud retournait la paille sans les quitter des yeux. Une odeur d'encens flottait dans l'air. Il n'y avait ni trône, ni sceptre, ni couronne, ni baldaquin, ni garde du corps. Seulement un coffret de myrrhe et quelques écus d'or posés sur un tabouret de vache et qui scintillaient à la lumière des torches. Pourtant Cyrus sut qu'il était arrivé à destination. Il se couvrit le visage, se prosterna devant l'enfant et prononça ces mots en bégayant. « Seigneur, je vous salue. Je suis Cyrus, le petit, roi de Perse. Je suis venu de très loin pour vous présenter mes respects et vous rendre hommage. Hélas, il ne me reste plus que des respects. Les perles de la mer persique, grosses comme des œufs de pigeon, je ne les ai plus. » « Vous êtes un vrai panier percé, » dit la femme en souriant. « Vous voulez dire un panier persan, » répondit le roi de Perse. Le mari éclata de rire, puis il demanda, « Ces perles, que sont-elles devenues ?» Cyrus se remit à bégayer. « C'est-à-dire, en traversant les monts de Judée, j'ai aperçu un homme qui gisait inanimé dans le fossé. » Il avait été agressé, détroussé. Je l'ai couché sur mon cheval et nous avons marché vers l'auberge la plus proche. Et n'ayant pas d'autre moyen de payer l'aubergiste, je lui ai donné une des trois perles pour qu'il le loge et qu'il le fasse soigner jusqu'à ce qu'il soit rétabli. « Et les deux autres perles, cher ami ?» questionnait l'homme qui s'appelait Joseph. Cyrus sentait bien qu'il posait ses questions par curiosité et non par intérêt. Cet homme ne réclamait rien. Son trésor, il l'avait sous les yeux. Le lendemain, reprit le roi de Perse, je pressai ma monture pour rejoindre la caravane des mages lorsqu'en sortant d'un village, je découvris une femme agenouillée dans le sable, très fardée, la robe déchirée. Une quinzaine d'hommes l'entouraient, ils l'insultaient. Adultère, pécheresse! Chacun avait en main des cailloux aux arêtes coupantes. Ils allaient la tuer, la jeter des pierres à la tête. Alors, n'y tenant plus, je lançai la deuxième perle au pied de l'accusé. Voici le prix de sa liberté, ô docteur de la loi. J'aidai la femme à se relever et l'emmenai loin, hors du cercle de la haine. Il te restait donc une perle, remarqua Joseph d'une voix grave et douce. L'aurais-tu perdue? Même pas, répondit Cyrus, je l'ai donné. Comment vous expliquer? En réalité, j'aurais pu être chez vous hier vers midi. Mais en approchant de Bethléem, je passais par un village. Il était en flammes. Les soldats du roi Hérode terrorisaient les habitants. Les mères hurlaient de douleur. Les hommes étaient ligotés, impuissants devant l'horrible massacre. Car les soldats passaient tous les petits enfants au fil de l'épée. J'allais prendre la fuite lorsque j'aperçus près d'une maisonnette embrasée un garde brandissant un bébé par une jambe. Agenouillée à ses pieds, la mère le suppliait « Tue-moi plutôt que mon enfant, pitié pour lui !» Mais l'odieux milicien ricanait. « Alors, monseigneur, me le pardonnerez-vous? Je n'avais pas d'armes et la bravoure n'est pas mon fort. Aussi, je tirais de ma bourse la dernière perle. » Et j'achetais l'enfant au mercenaire pour le rendre à sa mère. Voilà pourquoi je suis ici en pleine nuit et les mains vides. La honte m'étouffe, mais vous, vous paraissez si bon. » Le silence régna dans l'étable lorsque Cyrus se tut. Même l'âne et le bœuf retenaient leur souffle. Joseph prit la parole. « Petit roi de Perse, tu es pardonné. » Cyrus était quoi? Il déglutit bruyamment. Joseph lui dit, « Moi, je te l'affirme, il est plus facile à ton cheval de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Puis montrant le bébé, il reprit, « Tu arrives, pauvre, devant le roi des pauvres, avec la seule richesse de ton cœur généreux. Sois béni, va en paix. » Alors Marie murmura, « Approche, Cyrus. » À genoux dans la paille, le roi de Perse s'avança jusqu'à toucher l'enfant. Spontanément, il ouvrit ses mains vides en signe d'offrande et d'impuissance. L'enfant se détacha alors de sa mère et se tourna vers lui, l'étranger. Il avait tout entendu, il avait tout compris. Il glissa ses deux menottes blanches dans les paumes brunes avec un sourire qui illuminera le monde jusqu'à la fin des temps. Joseph s'essuya les yeux. L'âne caressa l'encolure du bœuf. C'est son premier sourire, il est pour toi, murmura Marie, tandis que sur ses joues coulaient trois larmes de joie. Comme elles brillaient, ces larmes. Oh, elles brillaient comme trois perles précieuses de la mer de Perse. Le cordonnier de Saint-Pétersbourg. Il était une fois un cordonnier qui se nommait Martin Adviechik. Son atelier était situé dans un sous-sol, si bien qu'en travaillant, il apercevait par le soupirail les chaussures des passants. Ainsi, il reconnaissait aisément les gens à leurs pieds, car il avait réparé toutes les bottes de la ville. Demain, on fêterait Noël. Les enfants criaient de bonheur dans les ruelles, en attrapant au vol les flocons de neige. Mais Martin n'avait pas le cœur à la joie. Ses enfants lui rappelaient ceux qu'il avait perdus. C'était le drame de son existence. Ses cinq petits étaient morts à la naissance, et leur mère avait été emportée avec le dernier. Fou de chagrin, Martin s'était tourné vers le ciel en brandissant le poing. « Seigneur, tu m'as repris mes enfants aussitôt nés. Tu n'as pas eu pitié de moi. Ma femme, ma bien-aimée, tu l'as rappelée à toi avant que nous puissions vieillir ensemble dans la louange de ton nom. Alors ce nom, plus jamais je ne le bénirai, tu entends ?» C'est pourquoi Martin n'aimait pas Noël. Alors que le monde entier attendait le Sauveur, il se concentrait furieusement sur son travail pour oublier son malheur. Pourtant, c'était un homme juste et bon. La veille de Noël, alors qu'il peinait à son ouvrage, il entendit soudain « Martin, Martin, mon ami !» se dressa en sursaut « Qui est là ?» Il se retourna, il n'y avait personne. S'était-il endormi? Avait-il rêvé? Non, puisqu'il entendit de nouveau distinctement la voix « Martin !» Écoutant son cœur meurtri, Martin répondit, Seigneur, Christ, est-ce toi? Si c'est bien toi, Seigneur, toi que j'ai cherché dans ma détresse, viens à mon aide. Ma douleur me fend le cœur comme une bûche sous la hache. Aie confiance, Martin, aie confiance, je suis l'amour. Demain, je viendrai te voir. Troublé, Martin se leva, se signa, embrassa l'icône, alluma le poêle, fit bouillir le samovar. Le lendemain, il s'assit à son établi et se remit au travail. Mais Martin était distrait. Avisant un livre sur l'étagère, il le prit et l'ouvrit au hasard. C'était le Saint-Évangile. Il lut un passage et le referma. Tout le jour, il lut ainsi comme on boit le thé à petites gorgées. Il y revint si souvent qu'il en négligeait ses clients. Son cœur s'ouvrait. Il était en même temps dans la paix et dans une agitation extrême. Il lorgnait sans cesse par le soupirail. Dès qu'il apercevait des souliers qu'il ne connaissait pas, il murmurait « Ô Christ, est-ce toi ?» Puis il se reprenait « Martin, tu deviens fou, tu as rêvé. Le Fils de Dieu en personne ne peut pas venir visiter un pécheur comme toi. » Alors il répétait la prière des pèlerins russes. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Il se remettait à l'ouvrage en jetant malgré tout des coups d'œil à la fenêtre. Il vit ainsi passer le porteur d'eau, le garde municipal, la princesse Tolstoï Dimitri Karamazov qui se traînait jusqu'au bistrot, et un vieux soldat de l'empereur Nikolaï, chaussé de bottes de feutre trouées. L'homme s'appelait Stepanik. Il était petit, maigre, barbu et usurpé. Mais une lumière dansait dans ses yeux, d'un étrange éclat, à la fois rieur et sage. Muni d'une pelle, il se mit à déblayer la neige devant la fenêtre de Martin qui sursauta. « Oh, ce n'est que Stepanich qui balaye la rue !» sourit Martin. « Et moi, je crois que c'est le Christ qui vient me voir. » Je divague. Pourtant, après 10 autres points piqués dans le cuir, il aperçut Stepanich qui soufflait doucement dans ses mains. « Il est vieux, ce bonhomme, » se dit Martin. « Il n'a plus la force pour ces travaux-là. » Il frappa à la fenêtre. « Viens donc te réchauffer un peu, » lança-t-il, « tu dois avoir froid. »« Que le Christ nous sauve. »« Oui, mes os me transpercent, » répondit Stepanik. Le vieux entra, essuya ses pauvres souliers et s'assit. Martin remplit 2 verres de thé et en donna un à son hôte. Stepanik savoura lentement le délice brûlant. Tout en buvant, Martin regardait par le soupirail. « Attends-tu quelqu'un ?» interrogea le vieux. « Oui, en quelque sorte, tu vas peut-être penser que je suis fou. Mais comment t'expliquer ? Je lisais hier l'évangile de notre petit père, le Crus, quand j'ai cru l'entendre. Le Seigneur m'a dit qu'il viendrait me voir. » Stepanik hocha la tête pour dire qu'il comprenait. Les 2 hommes burent en silence. Un long moment s'écoula. La neige tombait toujours. Stepanik acheva son verre et le retourna comme c'est l'usage sur la soucoupe. La chaleur qui le traversait fit couler des larmes le long de ses joues. Il fit le signe de croix et se leva. « Je te remercie, Martin, dit-il, de m'avoir traité de la sorte, de m'avoir réchauffé le corps et l'âme. » Puis il partit. Martin vint se rasseoir près du soupirail. Il cousit, cloua, piqua, cira, et, tout en travaillant, il regardait par la fenêtre, et il attendait le Christ. 2 soldats passèrent, puis un boulanger avec sa corbeille, puis apparut, dans le cadre du soupirail, une paysanne en bas de laine. Elle s'appuya contre le mur, elle paraissait épuisée. C'était une étrangère portant un nourrisson dans les bras. Elle essayait de protéger l'enfant du vent glacé, en vain. Le petit se mit à pleurer. Martin se leva, ouvrit sa porte et cria dans l'escalier. « Hé, femme, entre donc, tu seras mieux ici pour réchauffer l'enfant. » La femme parut toute surprise, mais elle obéit. Martin reprit. « Viens donc près du poêle, chauffe-toi et fais téter le petit. N'a-t-il pas si faim qu'il en pleure ?»« C'est que je n'ai plus de lait, » répondit-elle. « Depuis hier midi, je n'ai rien mangé. » Martin hocha la tête. Il s'approcha de l'établi, prit du pain, un bol, ouvrit le poêle où cuisait le potage aux choux et mit le couvert. « Assieds-toi et mange, moi je garde ton enfant. » Tout en mangeant, l'étrangère raconta son histoire. « Mon mari est soldat, parti au front. Je n'ai plus de nouvelles. J'ai voulu travailler comme nourrice, trop maigre, on m'a dit. Je n'ai plus un sou et je ne parviens plus à nourrir mon petit. » Martin soupira. La voyant grelotter, il se leva, alla fouiller dans une malle et en tira une veste fourrée. « Elle appartenait à ma femme. Elle est morte depuis longtemps. Prends-la. » L'étrangère prit la pelisse, caressa l'étoffe et fondit en larmes. « Que le Christ te sauve, petit père. C'est lui qui m'a conduite à ta fenêtre. Sans toi, l'enfant serait mort de froid et de faim. La bonne idée qu'il t'a inspirée, Jésus, d'avoir pitié de moi. » Martin sourit. « C'est lui, en effet, qui a dû m'inspirer. Il a eu pitié de moi. Ce n'était point par hasard que je regardais par la fenêtre. La femme se leva, s'inclina pour remercier Martin et enveloppa l'enfant dans le manteau, puis elle se signa. Martin se signa aussi et il la reconduisit. Martin la regarda s'éloigner dans la ruelle venteuse et se remit à sa besogne. Et tout en tirant la laine, il guettait les passants du coin de l'œil à la fenêtre et il attendait le Christ. Voilà qu'il vit s'arrêter une marchande ambulante qui tenait à la main un panier de pommes et sur le dos un fagot de petits bois. Elle s'arrêta pour souffler et posa son panier à terre. Soudain, un gamin jailli de l'ombre se jeta sur le panier. La marchande était vive, elle attrapa le petit par la manche alors qu'il allait filer. Il se débattait, mais elle ne le lâchait pas. « Je n'ai rien pris !» hurlait l'enfant. « Laissez-moi !» Martin se précipita dans la rue. Il les sépara. Puis, tenant fermement le gamin, il dit à la femme « Laisse-le, babouchka, ce qui veut dire grand-mère en russe. Pardonne-lui au nom du Christ. Je vais lui pardonner de telle sorte qu'il s'en souviendra jusqu'à la prochaine correction, qu'elle vaut rien !» Martin supplia la vieille femme, mais elle ne voulait rien entendre. Il a volé, il mérite une bonne fessée. Et, reprit Martin, heureusement que Dieu ne procède pas comme nous. S'il faut le fouetter pour une pomme, à nous, pour nos péchés, que faudra-t-il nous faire ? La vieille se tut un instant. Martin desserra son emprise. Le gamin tenta de déguerpir, mais Martin le rattrapa par le col. « Hep, 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 pas si vite, petit. Tu n'as pas encore demandé pardon pour ton larcin. Je t'ai vu prendre la pomme. » Le petit éclata en sanglots. « J'ai faim. On ne mange pas assez à l'orphelinat. Alors chaque soir, moi, je profite de l'obscurité. Je me faufile par une brèche du mur pour trouver un peu de nourriture dans les poubelles ou en chipant aux devantures. » Martin et la babouchka se regardèrent. Ils n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre. Martin choisit dans le panier deux pommes qu'il tendit à l'enfant. « Prends, petit. N'aie pas peur, babouchka, je paierai. » La marchande garda le silence et observa l'enfant misérable. Elle pensait à ses petits-enfants dont la tendresse ensoleillait sa vieillesse. Peut-être que ce garnement n'avait pas eu la chance d'être aimé. Bon, allez, passons l'éponge. Que Dieu te garde, soupira-t-elle en faisant signe à l'enfant de filer. Comme elle allait charger le sac de bois sur ses épaules, le petit lui dit « Donne, babouchka, je vais te le porter. On prend le même chemin. » La vieille hocha la tête et lui confia le sac, et ils s'en allèrent tous deux en causant. Martin les suivit des yeux attendris, puis il rentra chez lui. Il ramassa ses outils, balaya les rognures, décrocha sa lampe, la posa sur l'établi et s'assit. Son regard vagabonda un instant. Il attendait le Christ. Il prit l'évangile sur l'étagère. C'est alors qu'il crut entendre murmurer à son oreille « Martin, mon ami, ne m'as-tu pas reconnu ?»« Qui est là ?» murmura Martin. « Martin, n'aie pas peur, c'est moi !» fit la voix. « C'est moi !» Martin sentit une grande chaleur l'envahir. Il fit le signe de croix, ouvrit l'évangile au hasard. En haut de la page, il lut « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et plus loin, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors Martin comprit. Le Sauveur était vraiment venu chez lui ce jour-là. Dieu lui-même s'était rendu présent dans ses pauvres. Il joignit les mains en action de grâce, tandis que les cloches de toutes les églises de Saint-Pétersbourg sonnaient à pleine volée, annonçant la messe de minuit. Chantant sa joie à pleine voix, Martin choisit ses plus belles bottes fourrées, les glissa dans un sac qu'il chargea sur son dos. Puis il se mit en route d'un cœur léger, vers la masure de Stéphaniche, afin de lui offrir les bottes et de trinquer à la gloire de l'enfant Dieu. N'était-ce pas Noël ?